Bonjour à tous. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un plaisir de voir tout le monde ici en cet après-midi de sabbat, un plaisir toujours renouvelé de se réunir pour adorer Dieu et, bien sûr, pour apprendre à connaître ses voies. Je suis sûr que la plupart d'entre nous, probablement tous, aiment sortir de temps en temps pour un bon dîner au restaurant, peut-être avec leurs conjoints, avec leur famille. C'est certainement ce que j'apprécie. Pas tout le temps, mais de temps en temps, j'aime le faire avec des amis. J'aime cela. Peut-être même avec des collègues de travail. Lorsque j'étais dans le monde de l'entreprise, j'aimais sortir après une longue journée de travail ou lors d'un voyage d'affaires et prendre un bon repas avec eux. Je suis sûr que vous avez eu des expériences horribles dans des restaurants avec les mêmes personnes que celles que je viens de mentionner. C'est certainement mon cas. Dans la plupart des cas, je pense que nous admettons tous que nous avons eu de bonnes expériences. Mais il y a aussi les rares expériences vraiment fantastiques. Il se peut que vous ayez des opinions divergentes sur ce que je vais exposer ici. Mais je pense qu'il y a trois facteurs qui entrent en ligne de compte dans une expérience gastronomique potentiellement fantastique. Le premier est le lieu lui-même, à l'intérieur comme à l'extérieur, le décor, l'ameublement, l'endroit est agréable, c'est merveilleux de se rendre dans un tel établissement. Je me suis assis dans de très bons restaurants, mais je me suis aussi assis dans des bouges. Le traducteur devrait s'amuser avec ce mot, mais je me suis assis dans des endroits douteux. Ce facteur n'est pas aussi important que le second, qui est, je pense que vous serez tous d'accord, la nourriture. J'ai mangé dans des endroits vraiment douteux, des endroits où je ne vous recommanderais pas de passer beaucoup de temps. Je pense que certains de ces endroits où je suis allé sont la raison pour laquelle le terme take-out ou takeaway a été inventé. On n'a pas envie de s'y asseoir, mais quand il s'agit de la nourriture dans certains de ces endroits, c'est spectaculaire, exceptionnel. C'est le deuxième facteur. La nourriture. Il y a un troisième facteur, et je crois que c'est celui qui peut faire la différence entre une mauvaise, une bonne et une expérience absolument exceptionnelle dans n'importe quel restaurant. Ce troisième facteur est à l'origine de certaines de mes expériences les plus mémorables. La nourriture était peut-être correcte. L'endroit lui-même n'avait rien d'extraordinaire, mais mes frères, le service était exceptionnel. Il était spectaculaire. Le serveur ou la serveuse qui nous a servi, moi, mon épouse, ma famille, mes amis, mes collègues de travail, et même vous, mes frères, peut-être lors de la fête, n'étaient rien d'autre qu'extraordinaire. Ils ont contribué à faire de ce qui aurait été un moment agréable un moment formidable. Je pense que vous en avez tous fait l'expérience à un moment ou à un autre de votre vie. Les personnes qui ont contribué à rendre cette occasion si agréable, si mémorable, que vous feriez des pieds et des mains. Je me suis peut-être donné la peine de chercher le directeur ou d'essayer de le trouver pour lui dire à quel point ce serveur ou cette serveuse avait fourni un bon service ce soir-là. À tel point que j'ai souvent été ravi, et je pense que c'est un euphémisme, peut-être même plus que ravi, de donner à cette personne un pourboire exceptionnel, quelque chose de beaucoup plus important que ce que l'on attendrait normalement, en raison de la manière dont elle nous a servi. Frères et sœurs, permettez-moi de poser la question. Y a-t-il des serveurs dans la Bible? C'est une question difficile parce que la plupart d'entre vous qui connaissez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse ne trouveront pas le mot serveur ou serveuse. Il est assez difficile de couvrir un sujet si le mot n'apparaît même pas dans la Bible. Les traducteurs n'ont pas utilisé ce mot, mais le mot serveur et serveuse apparaît 30 fois dans le Nouveau Testament. Je les ai comptés, et il y a deux variantes. Il y a un nom d'action et le verbe lui-même. Vous avez le nom, l'action et le verbe. Ce sont 71 fois supplémentaires. Donc, 101 fois, vous serez peut-être choqué d'apprendre que le terme serveur ou serveuse et les actions relatives à un serveur ou une serveuse se trouvent dans le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas blâmer les traducteurs pour cela, car j'ai fait des recherches à ce sujet. Cela m'a rendu curieux. Le dictionnaire d'étymologie en ligne indique que le mot anglais n'a pris son sens traditionnel d'accompagnateur de repas ou de serviteur qui attend à une table qu'à la fin du XVe siècle. Ce serait, vous savez, 14 années 90, 14 années 80, à peu près là. Nous savons que la version King James de la Bible a été imprimée en 1617. Il s'est écoulé une centaine d'années ou plus avant qu'elle n'existe. Ce n'est que vers 1660 que le mot waiter, qui désignait les personnes servantes à la table d'une auberge, d'un restaurant ou d'un lieu de restauration, est apparu. Nous ne pouvons pas blâmer les traducteurs pour cela. Ce mot n'était tout simplement pas utilisé couramment, et ils ont donc choisi d'utiliser d'autres mots. La question demeure, où sont ces serveurs? Qui sont ces serveurs? Si nous pouvons les trouver, que pouvons-nous apprendre d'eux aujourd'hui? Tel sera l'objet du message d'aujourd'hui. Tournons nos Bibles vers le chapitre 2 de Jean. Jean, chapitre 2. Monsieur Hugues va parler des serveurs et des serveuses. J'espère que ce sera plus intéressant que cela. Je pense que ce sera le cas. Jean, chapitre 2 et verset 1. Nous savons que le troisième jour, connaissance extraordinaire que nous avons acquise récemment, frères, il y a eu un mariage à Cana en Galilée. Marie, la mère de Jésus, était présente et Jésus a été invité avec ses disciples à l'événement, verset 3. Quand ils ont voulu du vin, c'était Marie, Jésus, ses disciples, et tous les autres, les invités, la mère de Jésus. J'aime beaucoup, mes frères, lire certains de ces récits parce qu'on peut se mettre à leur place. J'imagine Marie se penchant vers Jésus et lui disant doucement, « Ils n'ont pas de vin. Peux-tu croire cela ?» Au verset 4, Jésus répond, « Femme, qu'ai-je à faire avec toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Comme le ferait une mère, fière de son fils, sachant de quoi il est capable, il est dit au verset 5 que Marie connaissait suffisamment son fils pour se retourner quand même et dire au serviteur, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Il suffit d'attendre et de voir ce qui va se passer. » Jésus donne ensuite des instructions, leur disant au verset 7 de remplir les cruches d'eau. Ils les remplissent à ras-bord, comme les serviteurs. Il leur dit, « Puisez maintenant et donnez-en au maître de la fête. » Ils firent ce que Christ leur demandait. Au verset 9, il est dit que le chef de la fête ne savait pas d'où venait l'eau, mais les serviteurs le savaient. Frères et sœurs, les mots « serviteurs » au verset 5 et au verset 9 sont exactement les mêmes en grec. Le mot ne signifie pas « esclave ». Dans le Nouveau Testament, le mot « serviteur » est utilisé 125 fois pour désigner un esclave volontaire ou involontaire. Il y a 24 occasions où il signifie un jeune garçon esclave ou une jeune fille esclave. Il ne signifie rien de tout cela. Ce mot se trouve dans le Strong's G12, 49. Je ne vais pas encore vous le révéler, mais vous voudrez peut-être le noter parce qu'il est à jamais enregistré dans mon esprit, G12, 49, qui provient d'un mot grec obsolète. C'est un mot qui n'existe plus, son origine. Cela signifie soulever la poussière comme quelqu'un qui fait une course. Sa définition, frère, G12. 49 dans le Strong's signifie un préposé qui est un serveur comme à une table ou d'autres tâches subalternes. C'est ce que signifie la définition, et c'est ce que nous trouvons ici à la tente de Cana. Des serveurs qui attendent l'invité du mariage. Tout simplement. Il y a des serveurs dans la Bible. C'est simplement le premier endroit où nous les trouvons. Ces hommes et ces femmes, potentiellement des femmes, attendaient au mariage. Ce n'est que le premier, je pense, des deux exemples les plus simples. Nous allons passer au suivant, qui, à mon avis, est encore plus simple que celui-ci. Tournons-nous vers Acte 6 pour voir si nous pouvons trouver ou identifier d'autres serveurs dans la Bible. Certains d'entre vous savent peut-être où je veux en venir. Peut-être pas. Acte des Apôtres, chapitre 6 et verset 1. En ce temps-là, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva parmi les Grecs des murmures contre les Hébreux, parce qu'on négligeait leurs veuves. Cela signifie négliger. Cela ne veut pas dire que c'était intentionnel. C'est simplement que l'Église s'était tellement développée, atteignant des centaines et des milliers de personnes, que certains étaient négligés. Et il est dit, négligés dans l'administration quotidienne. Nous apprenons ici que celui qui était chargé du service quotidien, quel qu'il soit, négligeait les veuves grecques. Avant de révéler les coupables, le mot administration est G12, 48, a un chiffre près de G12, 49, ce qui signifie qu'il s'agit d'un substantif d'action. Il signifie servir à une table, aider, servir comme un serveur. Nous sommes prêts pour le deuxième verset. Puis les 12. C'est cela. Les coupables. Les apôtres. Ils ont appelé la multitude des disciples parce qu'ils en ont pris conscience. Ils ont pris conscience que c'était eux qui négligeaient, par hasard, ces veuves grecques, et ils ont dit, ce n'est pas une raison, ou cela veut dire acceptable, pour nous de quitter ou d'abandonner la parole de Dieu et de servir quoi? Les tables. C'est encore plus clair, c'est plus clair que Jean 2. Les apôtres, les frères, de leur propre aveu, sont ceux qui ont négligé les veuves. De quelle manière? Le mot « servir » ici, « servir » est G12, 47. Un chiffre de plus enlevé, et cela signifie s'occuper, attendre. C'est la forme verbale de serveur. Frères et sœurs, les 12 apôtres servaient les tables de centaines, de milliers de disciples, pas chaque semaine ou de temps en temps, chaque jour. Ils étaient des serveurs. Il n'y a pas à discuter. Tout comme les serveurs qui ont servi Marie, Jésus et ses disciples noces, les apôtres étaient des serveurs. Ce sont les deux exemples les plus clairs que nous puissions trouver dans la Bible, ici dans Actes 6 et là dans Jean 2, qui illustrent le mieux la définition. Je suis maintenant prêt à vous révéler le mot grec, car je devais le faire pour que vous ne soyez pas confus, ou que cela ne soit pas un obstacle lorsque je vous donnerai le mot qui correspond à ce dont nous parlons aujourd'hui. Ce mot est diakonos. D-I-A-K-O-N-O-S. Encore une fois, il signifie un préposé, un serveur, comme à une table ou pour accomplir d'autres tâches subalternes, d'où le mot diacre. Les traducteurs de la Bible ont également utilisé serviteur. Tous, quelle que soit la traduction anglaise, parlent de serveur et de serveuse. Ceux d'entre nous qui pensaient que ce mot se référait principalement à la fonction de diacre, eh bien, il y a plus que cela dans l'histoire. Poursuivons au verset 3. C'est pourquoi, frères, trouvez et choisissez cet homme de bonne réputation, rempli du Saint-Esprit. Nous y reviendrons plus tard. Et de sagesse, que nous pourrons nommer. Cela signifie ordonner. Sur cette affaire. Le mot « affaire » signifie simplement « besoin ». Quel était ce besoin? Servir les tables. Verset 5. Cela plut à la foule, qui choisit Étienne, Philippe et les autres, les cinq autres hommes. Verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains et les établirent dans la charge officielle de diacre. Frères et sœurs, Dieu a certainement inspiré Luc à consigner ce moment pour toutes les époques afin que la fonction se poursuive jusqu'à aujourd'hui dans l'Église. C'est pourquoi l'Église, chaque fois que nous identifions le besoin d'un diacre ou d'une diaconesse, nous les plaçons dans le corps pour répondre aux besoins physiques de l'Église. N'oubliez pas que le mot « diacono » est utilisé 30 fois. Le mot « diacre », qui fait référence à la fonction elle-même, n'apparaît que 3 fois dans l'ensemble du Nouveau Testament. Philippiens 1, je crois le deuxième chapitre de Timothée 3, 8 et 12. Il y a 27 autres fois que « diacono » est utilisé sans aucune référence à la fonction de diacre ou de diaconesse. Sur les 71 fois où « diaconal » ou « diaconia » sont utilisés, seules 2 fois font référence aux personnes qui sont diacres ou diaconesses. Permettez-moi de vous résumer la situation. Sur les 101 fois où ces mots sont utilisés, 5 fois seulement il est fait référence à la fonction de diacre. C'est moins de 5%. Qu'en est-il des 96 autres fois? Telle est la question. Eh bien, regardons le verset 4 pour revenir sur les apôtres, parce que c'est fondamental pour le message, mes frères, pour le point le plus important que nous allons aborder. Verset 4. Nous. Et ce sont les apôtres qui parlent d'eux-mêmes. Nous nous livrerons continuellement à la prière pour le ministère de la parole. Verset 7. Et la parole de Dieu s'accrut, le nombre des disciples se multiplia beaucoup, et une grande troupe de prêtres commença même à obéir à la foi. Frères et sœurs, on peut dire sans risque de se tromper que les apôtres ont enfin pu prendre leur retraite en tant que serveurs parce qu'ils avaient cet homme. Ils peuvent enfin se consacrer à la prière et à la parole. Ils pouvaient se consacrer à leur rôle de ministre de Dieu. Au ministère de la parole, comme il est dit ici. Le mot ministère n'est pas différent du mot administration du premier verset. C'est exactement le même mot. Qu'est-ce que cela nous dit? Simplement que le temps qu'il fallait pour servir les gens et leur donner de la nourriture physique devenait un obstacle. Il entravait leur capacité à servir la nourriture spirituelle. Servir les tables n'a jamais été et n'aurait jamais été un problème pour les apôtres. S'ils avaient pu le faire et l'équilibrer avec le service de quelque chose de plus grand, ils auraient continué à le faire. Il leur était simplement impossible de faire les deux. Avant de poursuivre, mes frères, j'aimerais vous dire que les apôtres de Dieu ne cessent jamais d'être des serveurs. Pensez à l'ère moderne. Nous utilisons le terme de serviteur parce que nous ne voyons pas de serveur dans la Bible, mais M. Armstrong et l'apôtre actuel, M. Pack, sont les plus grands serveurs, si vous voulez, dans l'ère actuelle de l'Église, les plus grands exemples. Les apôtres de Dieu ont été et seront toujours, aussi longtemps que cette fonction existera, les principaux assistants, les principaux serveurs, dans l'Église de Dieu. Ne me croyez pas sur parole. Regardons le chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens. Premier chapitre des Corinthiens. Premier verset, et moi. C'est l'apôtre Paul qui parle. Frères, je ne vous parle pas comme à des esprits, mais comme à des êtres charnels. Comme à des enfants en Christ, je vous ai nourri de lait et non de viande, car jusqu'à présent vous n'avez pas pu le supporter. Vous ne le pouvez pas davantage aujourd'hui. Ce sont des paroles fortes de la part de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Parce que vous êtes encore charnels. Car s'il y a parmi vous des jalousies, des querelles et des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas comme les hommes? Voici quel était le problème. L'un dit, je suis de Paul, Je suis Paul. L'autre dit, je suis d'Apollo. Je suis Apollo et son exemple. N'êtes-vous pas charnel? Qui est Paul? Demande-t-il, et qui est Apollo, sinon des ministres? Bien sûr, n'est-ce pas? Non, c'est G12, 49, diacono. Qui sont donc Paul et Apollo? Eh bien, selon l'apôtre Paul, ils étaient avant tout des serviteurs de Dieu. Comment puis-je affirmer cela? Ce n'est pas la seule fois où l'apôtre Paul s'est qualifié de ministre. Frères et sœurs, à 72 autres occasions, en utilisant au moins 3 autres mots grecs, ministre est utilisé pour désigner la fonction de ministre, quelle qu'elle soit, dans le gouvernement de Dieu. Par exemple, laissez-moi vous donner l'exemple le plus puissant. Nous n'avons pas besoin d'aller jusque-là. Acte 26. Lorsque l'apôtre Paul témoigne devant le roi Agrippa de sa conversion et de sa mission auprès des païens, il cite Christ. Ne me croyez pas sur parole. Ne croyez pas Paul sur parole. Prenons Christ au mot. Voici ce qu'il a dit. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Il s'agit de ça à ce moment-là. C'est à cette fin que je te suis apparu. Écoutez attentivement. Le but pour lequel Christ lui a dit de se lever et de se tenir debout par ce qui lui était apparu était de faire de toi un ministre et un témoin de ce que tu as vu et de ce que je vais te révéler. Lorsqu'il a dit à Paul qu'il allait devenir ministre, ce qui était son but dans la vie, Christ n'a pas utilisé le terme diakono. C'est un autre mot grec. Je vais essayer. Uprot. Uprot. C'est le mot que Christ a utilisé. On pourrait penser que ce mot resterait gravé dans votre esprit si vous étiez ordonné directement ou si Christ vous disait directement quelle était votre mission dans la vie. Romains 15. Nous n'avons pas besoin d'y aller non plus. Je vais simplement vous donner quelques exemples. Le même apôtre Paul a de nouveau utilisé le terme « ministre » à propos de sa mission auprès des païens. Voici ce qu'il a utilisé, le tourgo, et non diakono. Dans ce même verset 16 de Romains 15, lorsqu'il dit « au service de l'évangile de Dieu », c'est encore un mot complètement différent. Frères et sœurs, pas diakono, pas diakonia, pas diakono. Paul n'était pas confus quant à sa vocation, pas plus qu'il ne l'était quant à la mission ou à la fonction d'Apollo. Il a utilisé le mot diakono ici, et nous ne devrions pas être confus à ce sujet non plus. Je pense qu'il a été inspiré d'utiliser le mot diakono pour deux raisons pour ses Corinthiens. D'une part, il condamnait ces Corinthiens à l'esprit charnel qui avait besoin de s'humilier et de suivre un exemple puissant. C'est pourquoi il a utilisé ce terme, qui est Paul et qui est Apollo, mais simplement diakono. L'autre chose qu'il faisait, c'est qu'il élargissait leur vision de sa vocation et de celle d'Apollo. Je ne vais pas m'avancer. Rappelez-vous dans Acte 6, frères, la parole de Dieu et les disciples, le nombre de disciples a augmenté. Pourquoi? Parce que les serveurs apostoliques de Dieu servaient plus de vérité. C'est le seul changement. Dieu voulait que ses maîtres d'autel servent l'instruction, servent la réprimande, servent la correction, forment le peuple de Dieu à la justice, à la doctrine. C'est ce que les serveurs apostoliques servent. Avec autant de bouches à nourrir, des serveurs ont été ajoutés à titre officiel. Des milliers. C'est pourquoi nous avons des diacres et des diaconesses. Cela s'arrête-t-il là? S'agit-il des seuls exemples de diaconaux ou de serveurs que Dieu a employés dans son entreprise? Raisonnons ensemble. Si les diacres sont une extrémité du spectre en termes de fonction que Dieu a dans son gouvernement, vous pourriez ajouter leurs assistants ministériels également, et les apôtres sont à cette extrémité du spectre. Frères, Ne serait-il pas raisonnable de penser que les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, les anciens, tout ce qui se trouve entre les deux, sont également des serveurs? N'est-ce pas? Dans les lettres que Paul lui a adressées, Timothée, l'évangéliste, a reconnu qu'il était un évangéliste, mais il lui a rappelé, dans la 1 Thessaloniciens 3, 2, qu'il était également un diaconeau. Timothée est un diaconeau. Attendez, revenez un peu en arrière. J'ai parlé de prophète. N'est-ce pas? Notez ceci, 1 Pierre 1, 12. Je ne fais que dresser une liste pour vous, mes frères. Dans 1 Pierre 1, 12, l'apôtre Pierre déclare que les prophètes de l'Ancien Testament étaient des serviteurs. Il utilise diaconeau. Ils servaient l'évangile, un évangile puissant que même les anges désirent examiner. Oh, et en parlant d'anges, en construisant la liste ici, Hébreux 1, 14, Paul a posé la question, en se référant aux anges, ne sont-ils pas tous des esprits qui exercent un ministère, envoyés pour exercer un ministère, c'est-à-dire pour servir, comme à une table, les héritiers du salut? C'est nous, mes frères. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Je suis toujours en train de construire un point important. Je pense que vous savez où je veux en venir, mais saviez-vous que Dieu a des serviteurs en dehors de l'Église? Romains chapitre 13. Romains 13. En dehors de l'Église, Dieu a des serveurs. Et au premier verset, que toute âme soit soumise aux puissances supérieures. Le sujet, ce sont les autorités publiques. Car il n'y a de puissance que de Dieu. Les pouvoirs qui existent sont ordonnés par Dieu. Non pas ordonnés par l'Église, mais par Dieu lui-même. Même mot utilisé dans les Actes des Apôtres. Verset 4. Car il est le ministre, le diaconeau, le serviteur de Dieu auprès de vous pour le bien. Mais si vous faites le mal, craignez qu'il ne porte l'épée. Car il est. Et il le répète. Le ministre de Dieu qui exécute la colère sur ceux qui font le mal. Même les autorités publiques. Les policiers sont des serveurs et des serveuses de Dieu. Avez-vous déjà vu sur les véhicules de police la mention « servir et protéger » ou « protéger et servir » Eh bien, que servent-ils? La justice. Si les fonctionnaires en dehors de l'Église sont considérés comme des serveurs et des serveuses de Dieu, il doit y en avoir d'autres qui viennent s'ajouter à la liste. Je vais vous donner deux autres exemples avant de poursuivre. Marc 10, Marc chapitre 10. Nous n'allons lire qu'un seul verset, mes frères. Verset 45. Car même le Fils de l'homme. Et je veux que vous vous souveniez de ce titre, Fils de l'homme ou Fils de Dieu. Je veux que vous vous souveniez de ce titre, Fils de l'homme ou Fils de Dieu. Car le Fils de l'homme lui-même est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour beaucoup. Les expressions « être servi » et « servir » sont toutes deux, vous l'avez deviné, G12, 47, l'acte d'être un préposé, un serveur comme à une table. Frères et sœurs, nous approchons de la saison de la Pâque, les jours de la Pâque, le Messie, Jésus-Christ, Sauveur du monde. Je vous dirai que ce mot grec que l'on dit obsolète n'est pas obsolète dans mon esprit. Jésus a soulevé la poussière et a fait la plus grande course jamais réalisée pour Dieu. Il n'est pas venu sur terre pour se faire servir, mais pour servir littéralement les autres. Il n'a pas nécessairement servi de la nourriture. Il a servi sa propre vie. Ainsi, frères, ce ne sont pas seulement les apôtres de Dieu, ni toutes les fonctions intermédiaires entre les apôtres et les diacres, ni les anges, ni les fonctionnaires, mais Christ lui-même qui a servi de diaconeau de Dieu. Maintenant, la liste est complète, n'est-ce pas? Vous savez quoi? J'ai peut-être oublié quelqu'un. Passons à Jean 12. Je crois que j'ai oublié. On dirait seulement que j'ai oublié. Je l'ai vraiment dans mes notes ici. Je n'ai pas vraiment oublié. Quelques pages sur le verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Le sujet ici est la vie éternelle. Le contexte est la vie éternelle. Verset 26. Si quelqu'un me sert. C'est G12, 47, tout comme nous l'avons lu dans Marc 10. Qu'il me suive, et là où je suis. Il s'agit d'un endroit précis, là où se trouve Christ. Voici un point important. Là aussi sera mon serviteur, mon diacono. Maintenant, que vous appliquez cela au singulier à son apôtre vivant ou à nous tous, cela ne fait aucune différence parce qu'il continue, si quelqu'un me sert. Donc, là où se trouve le corps du Christ, ceux qui le servent seront là où se trouve le corps et vous y trouverez au moins un serviteur, le chef des serviteurs ou le chef des serveurs. Il est dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Le contexte est à nouveau la vie éternelle. C'est la récompense. C'est le meilleur conseil, si je puis m'exprimer ainsi, que l'on puisse recevoir. Laissez-vous convaincre. Tous ceux qui se considèrent comme des disciples de Jésus-Christ doivent le servir comme des serveurs et des serveuses, mais comment? Considérez un instant le jugement des brebis et des boucs dans Matthieu 25, cette conversation que Christ a avec les nations, les brebis et les boucs. Nous pourrions nous placer du côté des brebis ou du côté des chèvres. Nous le prendrons du côté des brebis. Voici ce que la brebis a demandé. Il dit, « Mais quand avez-vous eu faim et que nous vous avons nourri ?» C'est ce que font les serveurs. Ils ont demandé, « Et quand avez-vous eu soif et que nous vous avons donné à boire ?» Oh, attendez, c'est ce que font les serveurs. Quand vous avons-nous accueilli comme des étrangers ? Attendez une seconde, c'est ce que les serveurs font tous les jours. Les gens entrent dans l'établissement, ils n'ont aucune idée de qui ils sont, de leur nom, sauf s'il s'agit d'habitués. Les serveurs reçoivent des étrangers tous les jours. Voici la réponse du Christ. Quand vous avez fait tout cela au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Pensez-vous que Dieu nous tiendrait à un niveau inférieur à celui des nations, des moutons et des chèvres, en particulier si nous sommes potentiellement les premiers fruits? Bien sûr que non, mes frères. Nous ne serons pas tenus à un niveau inférieur. À un niveau plus élevé que celui des brebis et des boucs, des nations, des apôtres, des diacres, des offices, des autorités, de Christ, et de vous, frères. La liste est maintenant complète. Nous sommes tous des serveurs et des serveuses de Dieu. Apocalypse 2. Apocalypse, chapitre 2 et verset 18. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Vous vous souvenez du terme « fils de l'homme » ou « fils de Dieu » Voici comment Christ s'est appelé lorsqu'il s'est adressé à l'église de Thyatire. Maintenant, si vous allez dans les autres, Éphèse, Smyrne et Philadelphie, Laodicée, Pergame, des descriptifs puissants que Christ utilise pour se décrire, mais ici à Thyatire, il utilise juste Fils de Dieu, et à l'ange de l'église, verset 18 de Thyatire, écrivez ces choses, dites le Fils de Dieu dont les yeux sont comme une flamme de feu, et ses pieds comme de l'airain fin. Je connais vos œuvres, je connais votre amour et votre service, votre foi, vos œuvres de patience, et la dernière est plus que la première. En d'autres termes, je reconnais que tu t'es amélioré dans ce que tu as commencé à faire. J'apprécie que Christ se soit désigné comme le Fils de Dieu lorsqu'il s'est adressé à l'église de Thyatire. Il aurait pu utiliser un autre terme descriptif puissant. Mais Christ a reconnu comme le Fils de Dieu, leurs œuvres, leur amour, mais il avait un service. Oh, mes frères, c'est G12, 48. Servir à une table pour servir quelqu'un. Imaginez être complimenté par Christ sur n'importe quoi, les œuvres, l'amour, oh, et en tant que serveur. Et apparemment, ce n'est pas la même chose, sinon il n'aurait pas utilisé les deux mots, œuvre et ici nous pouvons lire service. Frères et sœurs, je pense que cela est instructif pour toute l'Église, et nous sommes dans une période d'examen de conscience. Comment nous comportons-nous en tant que serveurs et serveuses de Dieu? Oui, il est important que nous nous purgions du péché, mais comment nous comportons-nous dans le cadre de notre examen de conscience en tant que serveurs et serveuses de Dieu? Quiconque s'identifie comme fils de Dieu, au verset 29, lisez ce qui est dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frères et sœurs, c'est pour nous. Christ a donné à chaque époque quelque chose qui s'applique à toutes les époques. Si nous avons une oreille, nous entendons ce que dit l'Esprit de Dieu. Et quand je regarde l'auditoire, je vois que tout le monde a au moins une oreille. C'est tout ce qu'il faut. Une seule oreille. Je sais qu'il s'agit d'une déclaration spirituelle, mes frères. Chaque personne baptisée dans le corps du Christ, là où se trouve Christ, là où se trouve le corps, est comme un serveur et une serveuse. Nous nous servons les uns les autres. Nous servons nos familles. Nous servons nos amis. Nous servons nos collègues de travail. Nous servons les étrangers lorsque l'occasion se présente. Frères et sœurs, notre objectif premier doit être d'attendre et de servir les autres, de nous servir les uns les autres. Il ne s'agit pas pour nous d'être toujours servis. Bien sûr, nous le serons, et nous le verrons bientôt au service de la Pâque. Quelqu'un vous lavera les pieds et vous leur laverez les pieds. C'est un grand symbole. Mes frères, nous ne servons pas seulement comme des serveurs et des serveuses de Dieu avec nos mains, nous devons être des serveurs et des serveuses de Dieu ici. Être un serveur ou une serveuse de Dieu se fait ici. C'est ici que cela se passe avant d'arriver ici, et c'est sur cela que va porter le reste du message. Nous avons tous connu de mauvais serveurs, et nous avons souvent été servis par de bons serveurs. Mais comme je l'ai dit plus tôt, nous rencontrons parfois des serveurs et des serveuses vraiment excellents. Qu'est-ce qui les distingue? J'avais quelques idées lorsque j'ai élaboré ce message, mais pour être sûr, j'ai consulté un expert. J'ai demandé à un jeune homme ici au siège, qui a travaillé pendant environ un an, peut-être un peu moins d'un an, dans un restaurant local, et si vous êtes déjà venu au siège, vous avez probablement fréquenté ce restaurant. Il y a travaillé. Je lui ai demandé de me faire part de certains traits ou qualités qui, selon lui, distinguaient les meilleurs de ce que j'appellerais les autres. Et vous savez quoi? Vous ne serez pas surpris d'apprendre que la Bible reflète ses réponses. Passons au chapitre 4 de la deuxième édition de Timothée. Deuxième Timothée, chapitre 4. Avez-vous déjà constaté qu'il était presque impossible d'attirer l'attention de votre serveur ou de votre serveuse dès le départ, même pour prendre votre boisson ou votre commande? Ce n'est pas parce qu'ils sont occupés à servir d'autres tables, car j'ai vu cela, il y a des serveurs et des serveuses qui sont vraiment occupés. Mais vous ne trouvez pas votre serveur et vous êtes pratiquement la seule personne ou le seul groupe dans le restaurant. Encore une fois, ils ne servent pas d'autres personnes. Ils sont probablement à l'arrière en train de fumer ou ils sont sur leur téléphone en train de faire une vidéo TikTok ou de regarder une vidéo TikTok. La dernière chose à laquelle ils pensent, c'est vous. Ils fréquentent le barman ou les serveurs à l'arrière, ou encore certains membres de l'équipe de cuisine. Ils n'attendent à votre table que si vous les appelez ou s'ils sont prêts à vous servir. Avez-vous déjà dû vous lever pour aller chercher votre serveur? Moi, oui. J'ai dû les chercher parce que je voyais nos plats prendre un bain de soleil sous les lampes chauffantes. Je me disais, combien de temps va-t-il rester là? Je sais que c'est mon repas. Je sais ce que ma femme a commandé. Je sais que c'est mon repas, je sais ce que ma femme a commandé, mais il reste là à bronzer et se transforme en bouillie. Je devais me lever. Je crois que notre repas est prêt. J'ai dû dire au serveur que notre repas était prêt. Lorsqu'ils vous servent, lorsqu'ils sont bons et prêts à vous servir, vous regrettez qu'ils ne l'aient pas fait. Vous aimeriez être chez vous en train de vous servir vous-même ou que quelqu'un d'autre vous serve. Que penserait le propriétaire ou le gérant de ce serveur ou de cette serveuse s'il le savait? Cela peut sembler élémentaire, mais c'est crucial. Vous devriez être ici dans le 2 Timothée 4. Lisons le verset 9. Faites preuve de diligence. C'est Paul qui parle à Timothée. Venez bientôt me voir, car Demas m'a abandonné, parce qu'il aimait le monde présent. Il a pointé son horloge. Il n'a même pas dit au revoir, il s'est enfui parce qu'il aimait le monde présent. C'est un serveur qui vient de partir. J'en ai fini. J'en ai assez. Je pars. Sans même dire au revoir. Il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Tite est allé en Dalmatie. Verset 11. Seul Luc est avec moi. Puis il dit, prenez Marc ou allez chercher Marc et amenez-le avec vous, car il m'est utile pour le ministère. C'est une phrase intéressante parce que je l'ai regardée et j'ai dit, oh, attendez, allons au grec. Si vous lisez directement le grec, vous verrez clairement qu'il est écrit, il m'est utile pour me servir, pour m'aider à me servir. Voilà ce que cela signifie. Paul ne demande pas à Marc de se joindre à lui pour prêcher l'évangile à ses côtés. Mais je dirais que l'aide de Marc a permis à Paul de faire progresser l'évangile. Le fait qu'il soit au service de Paul a aidé Paul à servir les autres. Mais je veux que nous nous concentrions sur le mot profitable, car nous parlons des caractéristiques d'un grand serveur, le meilleur des autres. Ce mot profitable est différent de toutes les autres fois où il est traduit en anglais. C'est pourquoi il faut creuser dans les Écritures. Je pense que le mot profitable apparaît 13 ou 14 fois dans le Nouveau Testament, et il s'agit de 7 mots grecs différents. En moyenne, il y a donc 2 mots grecs différents à chaque fois que l'on voit profitable. Les traducteurs utilisaient donc profitable, profitable, profitable. Ces mots n'ont pas la même signification. Ici, le mot rentable n'est utilisé que 3 fois. Il ne signifie pas au-delà. Il ne signifie pas profit. Ici, il signifie facile à utiliser. Frères et sœurs, Marc était facile à utiliser, pas seulement utile. Et il y a une distinction à faire. Frères et sœurs, le premier trait merveilleux d'un grand serveur ou d'une grande serveuse, c'est qu'il est facile à utiliser. Encore une fois, remarquez que je n'ai pas dit utile. Que signifie facilement utilisable? Allons au premier verset de Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère. Si vous le remarquez, les mêmes noms reviennent sans cesse. C'est vraiment une famille qui les remplit, notre bien-aimé et compagnon de travail. Verset 10. Je te prie pour mon fils Onésime, que j'ai engendré dans mes liens, et qui t'a été autrefois inutile. Mais maintenant il nous est utile, à toi et à moi. De quelle manière? Verset 12. Je l'ai renvoyé. Je vous le renvoie. Recevez donc celui qui est mes propres entrailles. Recevez-le comme si vous me receviez. Celui que j'aurai gardé. Je paraphrase. Que j'aurai gardé pour me servir à ma place. Il est si profitable que j'ai du mal à l'abandonner. Mais au verset 14, mais sans votre esprit, sans votre consentement, je ne ferai rien. Frères et sœurs, l'apôtre Paul a appelé Marc et il ne voulait pas abandonner Onésime. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous les deux facilement utilisables. Et ces exemples m'ont fait penser à mon enfance, à mon enfance. Je m'inspire beaucoup de mes parents. Mes parents ne toléraient pas que nous restions assis à ne rien faire alors qu'il y avait des choses à faire. Mon père disait souvent, et je ne l'ai compris que lorsque j'ai fait mes études, il disait « Rends-toi utile ». Il ne disait pas qu'il fallait être utile ou qu'il parlait de nos compétences. Il voulait simplement que nous soyons facilement utilisables. Il s'agit là d'une autre discussion. La qualité de notre travail n'a rien à voir avec le fait d'être facilement utilisable. Ma mère disait souvent, et peut-être trop souvent, en élevant 6 garçons. Pourquoi devons-nous te demander de faire quelque chose? Pourquoi devons-nous vous dire de sortir les poubelles? Pourquoi devons-nous te demander pourquoi tu ne l'as pas fait après être descendu du bus, t'être arrêté à la boîte aux lettres, avoir sorti des enveloppes et les avoir apportées à la maison? Pourquoi ne vois-tu pas que l'herbe est si haute qu'elle ressemble au Sahara ou à un safari? Pourquoi devons-nous vous dire de tondre l'herbe? Pourquoi devons-nous vous demander de nettoyer derrière vous? Ma mère me l'a trop demandé. Attention si mes parents pensaient que moi ou l'un de mes frères n'étions pas faciles à utiliser. Nous avons un mot pour cela chez nous. Paresseux. Ils veulent que nous ayons ou développions le sens de la contribution sans qu'on nous dise de le faire. Et mon père a dit à plusieurs reprises au fil des ans qu'il aimait travailler avec certains de ses garçons plus que d'autres. Non pas qu'il en aimait un ou deux plus que les autres. Ce n'est pas parce qu'ils étaient nécessairement plus utiles à quelque chose. C'est parce qu'il les utilisait facilement, qu'ils étaient agréables et qu'il n'avait pas besoin de leur demander. Qu'en est-il de nous? Les serveurs et serveuses de Dieu? Devrions-nous avoir besoin d'être traqués? Nous devrions être faciles à utiliser. Les grands serveurs et serveuses sont facilement utilisés, n'est-ce pas? Encore une fois, il s'agit d'un temps d'examen de conscience. Il s'agit d'identifier les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer. Ce n'est pas que nous ne soyons pas des serveurs. Par définition, nous sommes des serveurs ou des serveuses. La question est de savoir si nous sommes facilement utilisables. Pouvons-nous nous améliorer dans ce domaine? Rappelez-vous les actes, lorsque nous nous servons les uns les autres, Dieu fait grandir. Individuellement, personnellement et en quantité. Demandez à n'importe quel ministre de l'Église de Dieu, par exemple, à l'exception de l'apôtre. La plupart du temps, nous ne prêchons pas. La plupart du temps, nous ne donnons pas d'études bibliques, nous ne conseillons pas, nous ne faisons pas de conférences, etc. Nous cherchons donc des moyens d'exercer notre ministère. Je ne veux pas dire dans une capacité ministérielle, je veux dire attendre, vous attendre, nous attendre les uns les autres d'une autre manière. Et nous ne parlons pas de nos heures de travail, en particulier ici au siège. Je suis payé pour travailler de 9 à 6 heures. J'aime mon travail, c'est pourquoi j'ai du mal à l'appeler travail. Mais cela ne compte pas. Cela s'appelle un employé, pas un serveur. Maintenant, comment je sers en tant qu'employé, les autres? Ainsi, tout le monde, mes frères, sans exception, doit se rendre facilement utilisable. Mais, bien sûr, il y a un équilibre dans tout cela. Je pourrais introduire une mise en garde n'importe où, mais ici, c'est bien. Il y a un équilibre. Nous ne pouvons pas être disponibles tout le temps comme des serveurs et des serveuses. Mais voici ce qui, je vous le dis, n'est pas équilibré dans une congrégation ou lors d'un événement ecclésiastique. Tout ce à quoi vous pouvez penser, c'est que les mêmes personnes font tout, tout le temps. Nous devons tous se servir et être facilement utilisés. Cela m'amène à la deuxième caractéristique ou trait de caractère. Lorsque nous sommes facilement utilisés pour servir, cela doit s'accompagner de la caractéristique suivante. Permettez-moi de vous demander pourquoi un serveur ou une serveuse qui réussit passe une grande partie de sa vie à servir les autres. En cherchant sur Internet des serveurs et des serveuses célèbres, je suis tombé sur Lucille Ball, Jean-Claude Van Damme, Brad Pitt. Il y a des gens célèbres qui ont travaillé comme serveurs alors qu'ils développaient leur métier et attendaient de devenir célèbres. Ils diraient que certaines des compétences qu'ils ont développées en tant qu'acteurs, actrices ou artistes sont le fruit de leur travail de serveur ou de serveuse, qui leur a certainement permis de payer les factures. Mais je suis tombé sur le restaurant Galatoire sur Bourbon Street à la Nouvelle-Orléans, et cela m'a frappé. Un restaurant? Le restaurant a été fondé en 1955 par Jean Galatoire et Monseigneur Galatoire. Il venait d'un petit village de Pardy, en France. J'ai donc immédiatement cherché à savoir pourquoi ce restaurant figurait parmi les résultats de recherche de serveurs célèbres. Et ce que j'ai trouvé, c'est une histoire inspirante sur un serveur en particulier, Monsieur Charles Grimaldi Jr. Je me suis dit, attendez une seconde. Un restaurant qui ne fait pas la promotion de l'endroit avec des photos du décor. Souvenez-vous de l'intérieur et de l'extérieur, du décor, de l'ameublement. Lorsque vous consultez le site web d'un restaurant, à quoi vous attendez-vous? Le menu, la nourriture. Mais le serveur, une page entière essentiellement consacrée à l'un des serveurs, HMM. C'est intéressant. On ne voit pas cela très souvent. Eh bien, Monsieur Grimaldi a la particularité d'être le plus ancien membre du personnel de service. Par personnel de service, on entend l'ensemble des serveurs. Il a commencé à travailler le 17 septembre 1986, il y a donc 38 ans. Il a été inspiré par le père de sa belle-sœur, je crois que c'est le père de la femme de son frère, qui a servi dans ce même restaurant pendant, je crois, plus de 40 ans. Il est donc possible qu'il essaie de battre son record. Mais d'après leur page web, leur site web, M. Grimaldi est toujours là, même s'il préfère maintenant travailler à temps partiel. Voici ce que le site web dit de lui. Il aime servir les clients avec enthousiasme. Oh, et j'ai oublié un fait important à propos de M. Grimaldi. J'aurais dû le mentionner dès le début. Il a 83 ans. Lorsqu'on lui demande quel est le secret d'une telle longévité, voici ce qu'il répond. Aimer ce qu'il fait. Colossiens, chapitre 4, devrait être ici maintenant, verset 7, Tychique vous fera part de tout mon état, de toute ma situation. Vous pouvez commencer à compter les noms, car c'est extraordinaire. Qui est un frère bien-aimé et un ministre fidèle. C'est G12, 49. Qu'il s'agisse d'une fonction officielle ou d'une simple déclaration de soi, de ce qu'il est au fond de lui-même. Et compagnon de service. Le mot serviteur est différent. Il signifie esclave, esclave volontaire. Il s'agit donc de deux mots différents. Diacono et esclave dans le Seigneur, que je vous ai envoyé dans le même but, afin qu'ils connaissent votre situation et qu'ils réconfortent vos cœurs au sujet d'Onésime. Le revoilà. Notre frère fidèle et bien-aimé qui est l'un de vous. Eh bien, s'il est l'un d'entre vous, cela signifie que vous êtes un serveur rentable, un serveur ou une serveuse facilement utilisable. Ils vous diront tout ce qui se passe ici. Verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, te salue, et Makos. Et encore Makos, le neveu de Barnabé, de qui vous recevez les commandements. S'il vient à vous, recevez-le. Et Jésus a appelé justice les circoncis, ceux-là seulement sont mes compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu, qui m'ont été une consolation. Verset 12. Épaphras, l'un de vous, serviteur du Christ. Ce terme signifie à nouveau esclave. C'est un tout autre sermon et un tout autre sujet. Je vous salue, travaillant toujours avec ferveur pour vous dans les prières, afin que vous soyez parfaits et complets dans la volonté de Dieu, car c'est de lui que je porte témoignage. Attendez une seconde. Nous venons de mentionner cinq prédécesseurs. Qu'est-ce que Paul s'évertue à consigner au sujet d'Épaphras? Il a un grand zèle pour vous, pour les Laodicéens et pour ceux de Hierapolis. Frères et sœurs, si Hébreux 11 est le temple de la foi, je qualifierais cette partie de l'Écriture de temple de la renommée de Diacono. Ce n'est pas souvent le cas, n'est-ce pas? Ces six chrétiens moins connus ont compris leur rôle particulier, quel qu'il soit, leur don. Tout comme Paul a compris que son rôle de serveur prenait la forme d'un apôtre, Timmy a compris que son rôle prenait la forme d'un évangéliste. Tous étaient des diaconaux de carrière, des serveurs de carrière, ils se distinguent tous, mais il y avait quelque chose à propos d'Épaphras qui devait être enregistré. C'était si remarquable que Dieu a inspiré Paul à le mettre par écrit, et cela nous ramène à M. Grimaldi du restaurant Galatoire, qui s'est distingué par ce trait de caractère particulier. Paul a rapporté qu'Épaphras, qui est l'un des nôtres, ne le laissait pas échapper, frère, avait beaucoup de zèle. Il est facile de voir quand quelqu'un est passionné par quelque chose. Nous sommes tous passionnés par certaines choses. Pensez à quelque chose qui vous passionne. J'ai un neveu, quand il était jeune, il a été élevé dans l'église, il n'est pas avec nous en ce moment, mais il avait une passion pour devenir mécanicien. Il aimait les voitures. Il est mécanicien aujourd'hui. Sa passion pour la mécanique, son amour des voitures, l'ont poussé à devenir mécanicien. Il vous dirait probablement qu'il ne travaille pas un seul jour de sa vie parce qu'il aime bricoler les voitures, les réparer si elles sont cassées, trouver ce qui ne va pas. Nous connaissons tous le dicton « Si nous aimons ce que nous faisons, nous ne travaillerons pas un seul jour de notre vie. » Et je vous dirais que je n'aimerais pas vivre cette vie, à notre époque, sans être passionné par quelque chose. Il n'y a rien de mal à cela. Mais avez-vous remarqué qu'Épaphras n'a pas été enregistré ou reconnu par Dieu pour avoir simplement un grand zèle pour quelque chose? Du point de vue de Dieu, il était remarquable que son grand zèle soit pour les autres, et non pour lui-même, ou pour quelque chose. Je demandais à mon neveu, « Tu veux être le meilleur des autres ? Quelle est votre passion pour le propriétaire de la voiture sur laquelle vous aimez travailler ? Quel sentiment ressentez-vous lorsque cette personne remonte dans sa voiture en sachant qu'un mécanicien passionné a travaillé sur son véhicule et qu'il est tout aussi passionné, voire plus, par ce conducteur ou ce propriétaire ? C'est ainsi que l'on devient le meilleur de tous les autres. Vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, vous êtes passionné par les gens à qui vous le faites. Vous voulez devenir infirmier ou médecin, vous êtes passionné par le domaine médical, les technologies qui le sous-tendent et tout ce que vous pouvez faire, c'est une bonne chose. Mais si vous voulez être le meilleur des autres, êtes-vous passionné par la personne qui est venue vous voir parce qu'elle est malade et qu'elle a besoin d'aide ? Prendre le son de quelqu'un peut être amusant pour vous, cela peut vous passionner et vous aimez lui donner un coup de poignard dans le bras. Mais aimez-vous la personne? Êtes-vous passionné par cette personne, par ce que vous faites et par l'impact que cela aura sur elle? Ou peut-être êtes-vous dans les affaires et êtes-vous passionné par un aspect des affaires et du travail dans un domaine spécifique, mais ce qui distingue les meilleurs des autres, c'est qu'ils sont passionnés par les collègues avec lesquels ils travaillent en collaboration, se servant les uns les autres pour servir en fin de compte les clients. Deuxièmement, mes frères, les grands serveurs et serveuses doivent avoir une grande passion pour le service des autres, et non des choses ou d'eux-mêmes. 2 Corinthiens, chapitre 9. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 1. Pour ce qui est du service des saints, il est inutile que je vous écrive. Car je connais l'empressement dont vous faites preuve, et dont je me glorifie auprès des Macédoniens. Je connais, en effet, l'ardeur de ton esprit, dont je me glorifie auprès de ceux de la Macédoine, car l'Achaïe est prête depuis un an, et ton zèle en a provoqué un grand nombre. Un grand nombre de personnes. Frères et sœurs, nous faisons tous partie du même personnel d'accueil dans l'entreprise de Dieu. Certains d'entre vous ont été des serveurs et des serveuses fidèles pendant 20, 30, 40, 50 ans et plus. Vous êtes de grands exemples pour nous qui servons comme serveurs et serveuses depuis moins longtemps. Pensez à l'exemple puissant de Monsieur Grimaldi à 83 ans pour le personnel plus jeune, lorsqu'il se présente jour après jour pour servir les clients, les patrons, et qu'il le fait avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de passion, car qu'est-ce qui pourrait vous pousser à servir pendant 83 ans ou 40 ans, presque 40 ans? Ce doit être la satisfaction de voir un client satisfait à son tour du service que vous lui avez rendu. Je peux vous assurer que les jeunes membres du personnel de ce restaurant qui apprécient et suivent l'exemple de Monsieur Grimaldi deviendront eux-mêmes d'excellents serveurs et serveuses et qu'ils passeront peut-être le reste de leur vie à faire la même chose que Monsieur Grimaldi. Je vous garantis également que ceux qui n'apprécient pas et ne suivent pas l'exemple de Monsieur Grimaldi se retireront un jour ou l'autre et poursuivront une autre carrière. Frères et sœurs, vous qui êtes ici depuis de nombreuses années en tant que serveur et serveuse, vous en provoquez beaucoup par votre zèle. Continuez à le faire, même si vous le faites à temps partiel, en servant moins que vous ne le souhaiteriez. En soi, cela prouve que vous avez beaucoup de zèle. Vous ne pouvez peut-être pas en faire autant, mais vous faites beaucoup pour inciter les autres à avoir un grand zèle. Quoi qu'il en soit, je l'ai déjà dit, en tant que serveur et serveuse de Dieu, nous devons fonctionner avec un carburant à indice d'octane élevé si nous voulons le servir jour après jour. Pour servir client après client après client, le bon, le mauvais, le lait dans nos vies. Nous avons besoin d'un zèle pur et puissant pour les autres, pas pour les choses, pas pour nous-mêmes. Dieu est le seul à pouvoir fournir ce grand zèle, mes frères. Nous devons le lui demander régulièrement, car le carburant à indice d'octane élevé brûle vite et brûle fort. Tout comme le carburant pour un véhicule, nous devons remplir nos réservoirs régulièrement. Nous devons être remplis et exercer l'Esprit de Dieu si nous voulons réussir. Troisièmement, les grands serveurs et serveuses savent qu'il faut s'associer pour réussir à servir les autres. Dans les restaurants que j'ai fréquentés, j'ai rarement rencontré les propriétaires, les gérants, le personnel de la cuisine et du bar ou les préparateurs. Il n'y a que les serveurs et les serveuses, mais je suis sûr que tout serveur ou serveuse digne de ce nom peut vous dire à quel point ces personnes sont essentielles à sa réussite personnelle en tant que serveur ou serveuse. Ils peuvent être aussi agréables que possible, mais si tous les autres ne les servent pas pour qu'ils puissent servir les clients, ce n'est pas suffisant. À l'inverse, les personnes qui travaillent en coulisses, le propriétaire, le directeur, Tous ceux que je viens de décrire admettraient à quel point les serveurs sont essentiels à leur succès. Ils sont tous des serveurs dans leur rôle particulier. Le propriétaire est au service du directeur du restaurant et de l'ensemble du personnel. Le gérant, quant à lui, est au service de tous les autres. Comment puis-je vous aider? L'ensemble du personnel de cuisine, les chefs, les cuisiniers, les plongeurs, s'appuient les uns sur les autres, qui s'appuient à leur tour sur les préparateurs. Ces derniers, si l'on y réfléchit bien, attendent en fait les serveurs et les serveuses. Tous ces partenaires facilitent le travail du serveur qui doit servir les clients, mais en fin de compte, ce sont tous des serveurs qui se servent les uns les autres. Il en va de même dans l'Église, mes frères. Nous pourrions parler de la famille de Dieu comme de la communauté des serveurs, ou de la communauté des serveuses, pas de la communauté des anneaux, mais de la communauté, j'ai cité un film, mais de la communauté des serveurs. En fin de compte, notre salaire, nos récompenses de la part de Dieu et du Christ seront liées à notre capacité à nous associer les uns aux autres, à répondre aux besoins des uns et des autres, à ceux qui sont appelés dans l'Église, aux nouveaux membres, aux membres potentiels, et à ceux qui sont en dehors de l'Église. C'est un point intéressant, pensez-vous, monsieur Hook, mais vous ne trouverez pas d'exemple de cela dans la Bible. 2 Corinthiens, chapitre 8, quelques pages seulement. Juste une page. Premier verset. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine, malgré une grande épreuve, l'abondance de leur joie. Malgré une grande pauvreté, l'abondance de leur libéralité. Et malgré leur grande pauvreté, elles abondent jusqu'à la richesse de leur libéralité. Car c'est de leur puissance que je témoigne. Oh, Paul a de nouveau pris acte. Lorsque Paul dit cela, prenez-en note. Dieu l'incite à faire état d'une caractéristique particulière de quelqu'un. Oui, et au-delà de leur pouvoir, ils étaient eux-mêmes disposés, priant beaucoup, en traité, pour que nous recevions le don et que nous prenions sur nous la communion du ministère auprès des saints. L'apôtre Paul utilise l'expression « communauté de la diaconie ». Assister ou servir en tant que serveur à une table pour d'autres saints. C'est le même mot que celui utilisé lorsque Marthe servait Christ dans Luc 10. Vous dites qu'elle était au service du Christ et de ceux qui étaient là, préparant et servant la nourriture. Et ici, il révèle une autre façon spécifique d'accomplir ce service collectif en donnant. Tel est le contexte. Donner financièrement. Mais cela a une application très large, frères, si vous y réfléchissez. Ce n'est pas seulement en mangeant et en donnant de l'argent que nous sommes en communion ou en partenariat. J'y reviendrai un peu plus tard. C'est sur ce mot « fraternité » que je veux me concentrer. Il signifie partenariat. Bien sûr, c'est ce que j'essayais de dire. Lorsque nous nous réunissons pour une activité quelconque, un repas partage après le culte, nous ne sommes pas simplement en communion, nous sommes en partenariat. Les activités sociales, ce n'est pas de la camaraderie, c'est du partenariat. Lors des événements ecclésiastiques, nous nous associons entre frères, nous ne nous contentons pas de nous fréquenter. Et ici, Paul révèle que nous nous associons à nouveau les uns aux autres pour attendre et répondre aux besoins des autres saints. Vous êtes assis à un repas partage. Quelqu'un a besoin d'être écouté pendant que je vais servir l'écoute. Quelqu'un qui a besoin d'entendre quelqu'un servira à parler. Quelqu'un a besoin de conseils, donnez-lui des conseils, attendez-le. Nous ne pouvons pas réussir seuls en tant que serveurs de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous contenter de le faire ici, dans l'Église, avec les saints. Dieu sait que la plupart des personnes que nous côtoyons régulièrement ne feront pas partie de l'équipe de Dieu. Tous sont personnels de service, si vous voulez. Leur seul contact est avec vous individuellement, mes frères. Lorsque vous sortez de ces murs et que vous rentrez chez vous après le service du sabbat, vous passez la semaine là où vous passez. Ils ne connaissent pas le propriétaire, Dieu. Ils ne connaissent pas le gérant, Christ, si je peux utiliser l'analogie. Ils ne rencontreront peut-être jamais le chef du personnel de service, l'apôtre. Ma famille et mes amis ne savent pas que je suis un serveur appelé à les servir, et ils ne peuvent pas l'apprécier. Ils n'ont aucune idée et ne peuvent pas apprécier le fait que je suis devenu un meilleur serveur ou l'un des meilleurs serveurs possibles grâce à mon partenariat avec vous tous, parce que votre zèle à être des serveurs et des serveuses me provoque et j'espère que mon zèle à servir en tant que serveur de Dieu vous provoque. C'est ce que signifie la communion ministérielle dans son sens le plus large. Très final. Je dois remercier mon expert pour celui-ci. Je n'y aurais jamais pensé sans sa réponse à ma question. Même si nous sommes facilement utilisables, même si nous servons les autres avec beaucoup de zèle, même si nous reconnaissons l'importance énorme de s'associer les uns aux autres, de se servir les uns les autres pour servir les autres, les grands serveurs et serveuses de Dieu doivent posséder cette dernière caractéristique vitale. Vous pouvez avoir tous les autres éléments. Si vous ne possédez pas cet élément, vous serez littéralement à la traîne. 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous passons beaucoup de temps dans ce livre. Juste une page ici. Verset 1. C'est pourquoi, puisque nous avons ce ministère, ô, la diaconie, comme nous avons reçu la miséricorde. Paul fait référence à son rôle d'apôtre, mais il s'agit d'une diaconie. C'est juste sa façon d'être serveur. Nous ne faiblissons pas. Voilà. Verset 8. Nous sommes troublés de toutes parts, mais nous ne sommes pas angoissés. Nous sommes perplexes, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non détruits. Verset 15. Car tout est pour vous. Il montre que son service en tant que serveur est pour les autres. Il a un grand zèle pour eux. Un exemple. Afin que l'abondance de la grâce parvienne, par les actions de grâce d'un grand nombre, jusqu'à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous laissons pas, mais si notre extérieur périt, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Frères et sœurs, numéro 4. Les grands serveurs et serveuses persévèrent. Ils ne s'évanouissent pas jusqu'à la fin de leur service. Parce qu'être un serveur et une serveuse de Dieu, c'est un travail 24 heures sur 24. Bien sûr, nous dormons. Vous vous souvenez de l'administration quotidienne? Je vais citer directement le courriel que ce jeune homme m'a envoyé. C'est émouvant et je voulais m'assurer de le citer. Même si vous avez fait un long service, vous devez traiter tous vos clients de votre mieux. Le dernier client, dans mon esprit, provoqué par ce jeune homme, alors qu'un serveur sert, attend et devrait recevoir le même niveau de service que le premier. Nous sommes tous fatigués, mais ce qui compte, c'est notre performance à la fin de la journée et non au début. Le soir, en famille, lorsque nous sommes fatigués. Galates 6. Souvenez-vous de l'administration quotidienne, mes frères. Rappelez-vous que Demas a abandonné sa vocation, car il a aimé le monde présent. Il s'est retiré. Nous commençons nos journées en beauté. Nous commençons notre appel avec beaucoup de zèle, nous sommes facilement utilisés, prêts à être utilisés, nous contribuons en tant qu'équipe, mais pourquoi ai-je eu ce dernier client? Pourquoi moi? J'ai appelé ces essais de prépassoir toute l'année, tout au long de l'année. Pourquoi? Eh bien, peut-être que ce dernier client de la journée est votre conjoint ou vos enfants, ou votre frère ou votre sœur, vos parents, un collègue de travail, votre patron. Vous vous apprêtez à partir et votre patron vous appelle pour vous demander une dernière chose dont il a besoin. Excuse ou pas, une personne de plus qui a besoin d'aide, ce dernier client, seras-tu encore facilement utilisé, même si tu es maintenant en train de courir sur les fumées du zèle? C'est ce que décrit ce verset. Troublé, perplexe, affligé, persécuté, abattu. Malgré tout cela, allez-vous faiblir? Persévérerez-vous? Frères et sœurs, alors que nous approchons de la Pâque, les jours des pains sans levain, imaginez si Christ aurait abandonné à la dernière minute, s'il avait démissionné ou s'il s'était évanoui. Frères et sœurs, l'heure est à l'examen de conscience. Pas seulement dans les domaines du péché qui doivent être purgés. C'est important. C'est vital. En fait, dans 2 Timothée 2, 21, vous n'avez pas besoin d'aller là, l'autre fois qu'il est dit profitable, facilement utilisable, vous savez de quoi il s'agit, seulement 3 fois, je vous en ai montré 2, à telle et telle occasion. Il est dit que si vous ne vous débarrassez pas des bavardages, des vains bavardages et de l'impiété, vous ne pourrez pas être facilement utilisé par Dieu. J'aurais pu aller plus loin, mais j'ai préféré gagner du temps. Vous êtes donc au verset 9 de Galates 6, ne nous laissons pas de bien faire, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous fatiguons pas. Puisque nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous les hommes, en particulier à ceux qui appartiennent à la famille de la foi. Frères et sœurs, quelle est votre administration quotidienne? Quelle est votre diaconie? Quel est votre service? Que négligez-vous peut-être? Pour l'apôtre Paul, la diaconie consistait à servir la bonne nouvelle de l'Évangile. Votre service peut consister à faire partie de l'équipe d'installation, de l'équipe d'accueil, de l'équipe des huissiers, à chanter dans la chorale, à jouer d'un instrument, à diriger la chorale, à diriger les chants, à travailler comme technicien audio ou vidéo, à cuisiner, à servir dans la cuisine, à travailler avec les enfants. Le service dans l'église peut prendre de nombreuses formes. Faire du babysitting pour que les parents puissent s'occuper l'un de l'autre ou s'occuper d'autres personnes dans le cadre de l'église. Peut-être préparer un repas pour une famille frappée par la maladie. Ce sont des choses que nous savons tous, mes frères, et que vous faites. Pouvons-nous nous améliorer comme Thyatire, afin que notre dernier service soit plus grand que le précédent? Rendre visite à une personne âgée ou à une veuve, ou simplement décrocher le téléphone, appeler ou envoyer un SMS à quelqu'un pour lui dire « J'ai pensé à toi aujourd'hui, point final. » Peut-être quelque chose de moins formel, comme des jeunes hommes qui ouvrent les portes aux membres plus âgés. De jeunes serveurs provoqués par le zèle des serveurs plus âgés ou peut-être ouvrant la porte aux dames. Indice, indice, jeunes hommes. Pensez aux occasions qui se présentent à la fête, même au travail ou à la maison, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Où que soit votre administration quotidienne, ne vous contentez pas d'être facilement utilisé. Exécutez-les avec beaucoup de zèle. Reconnaissez que si vous ne vous associez pas, vous ne réussirez pas aussi bien. Mais ce qui est tout aussi important, mes frères, c'est de ne pas s'évanouir. Terminez votre travail. N'abandonnez pas. Monsieur Grimaldi continue, il continue à 83 ans. À temps partiel peut-être, oui, mais il y va quand même. Il est facilement utilisable. Il est soutenu par une équipe. Il soutient son équipe. Il sert les clients, même s'il a pris de l'âge. Notre rôle en tant que serveur et serveuse de Dieu ne s'arrête jamais si nous comprenons ce que nous avons couvert aujourd'hui, Matthieu 23, 11. Laissez-moi juste le lire pour vous, le verset 11. Mais celui qui est le plus grand parmi vous sera le plus facile à utiliser, le plus ailé, le plus collaborateur et le plus persévérant. G12, 49. Serveur ou serveuse.